L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce radio-journal. Le fil de l'information en deux titres de 2024 à 2026, plus de 1800 maisons ont été incendiées dans la ville de Bukavu et dans certains territoires du sud Kivu. Avec ces incendies, au moins 15 000 personnes restent sans assistance. C'est ce que rapporte le Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance Baraz Alaraïa, qui vient de publier une note de plaidoyer en faveur des familles sinistrées. Et la journée mondiale de l'aide humanitaire sera commémorée ce mercredi 19 août 2026 au sud Kivu suite aux nombreuses crises, notamment les conflits armés. Les travailleurs humanitaires exercent dans des conditions difficiles. Ils sont exposés à la mort dans les zones à risque et confrontés à la réduction des financements, rapporte le Conseil national des forats des ONG humanitaires et des développements qu'on a fait dans sigle. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
Au moins 15 000 personnes restent sans assistance suite à l'incendie de leur maison entre 2024 et 2026 dans la ville de Bukavu et dans certains territoires du sud Kivu. Ces chiffres représentent plus de 1857 maisons parties en fumée durant la même période, en plus des institutions et entités de production ravagées par des flammes. Ceci est contenu dans une note de plaidoyer adressée au président de la République par le Parlement citoyen pour la démocratie. Tracer la bonne gouvernance, Baraz Alaraïa en faveur des sinistrés des incendies à Bukavu et dans certains territoires. Ces incendies frappent une population déjà fragilisée par la pauvreté, le chômage, la précarité des logements, la crise économique, l'insécurité et les conséquences de la guerre, fait observer notre source à travers cette note de plaidoyer. À ces jours, plusieurs de ces familles restent sans assistance et passent certaines la nuit à la belle étoile, exposées aux intempéries. En plus de la ville de Bukavu, certains territoires, dont Kabare, Calais et Mwenga, ont également été touchés. Ainsi, le Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, à travers son président Amani Luamba, plaide pour l'identification des victimes et menaces sinistrées et une assistance humanitaire d'urgence en mettant une priorité sur les femmes, les enfants et les personnes âgées. On l'écoute dans cet extrait.
Nous sommes venus en tant que défenseurs de droits humains demander au gouvernement de pouvoir ouvrir la main et le cœur pour intervenir en urgence en faveur de ces citoyens qui sont en train de souffrir dans les sites Kivu, dans la ville de Bukavu. Rien ne peut empêcher qu'une aide humanitaire n'arrive à Bukavu afin de subvenir aux situations de nos compatriotes, leur donner encore l'abri, leur donner encore quelque chose pour relancer la vie. Parce que ça se fait dans le domaine de l'éducation, nous voyons les items arriver et atteindre les élèves dans les malgré l'occupation. Nous voyons les vaccins arriver, le gouvernement peut aussi, en urgence, prendre un mécanisme pour subvenir aux besoins de nos compatriotes victimes des incendies gravissimes qui sont en errance en difficulté extrême dans la ville de Bukavu en particulier et dans d'autres territoires. À défaut, la population se trouve dans une misère qui ne s'explique plus.
Ce dernier déplore également l'attitude de certains notables et acteurs politiques qui semblent s'éloigner de leur communauté au moment où celles-ci ont plus besoin de leur accompagnement. Et un mort et plusieurs maisons parties en fumée, c'est le bilan d'un incendie survenu l'après-midi de dimanche au quartier Panzi, sur l'axe Bizimana-Mbeke, dans la commune d'Ibanda, à Bukavu. En croire Mouroula Matsumbi, co-président de la société civile d'Ibanda, le corps sans vie est celui d'un enfant qui a été découvert lundi matin dans les décombres lors des opérations de recherche. Ce décès porte à 4 le nombre de personnes mortes dans des incendies enregistrés à Ibanda en moins d'un mois, principalement à Panzi et Ndendere, ajoute notre source. Et ce mercredi 19 août 2026, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire, une journée instituée en 2003 par les Nations Unies en hommage au travail humanitaire et pour manifester la solidarité envers les personnes touchées par les crises à travers le monde. Dans les provinces de l'Est de la RDC principalement, au sud Kivu, au nord Kivu et en Ituri, les travailleurs humanitaires exercent dans des conditions de plus en plus difficiles, alors que le nombre des personnes touchées ne fait qu'accroître à cause des crises multiformes. Les précisions avec Myriam Mofano.
Parmi les difficultés figurent la réduction de financement, l'impossibilité d'accéder à certaines zones affectées, l'exposition au risque d'être arrêtée voire tuée par des porteurs d'armes, le manque d'infrastructures et des moyens logistiques adaptés. Et dans un contexte de cristallisation de la crise, le docteur de Joseph Kakisingi, président du Conseil national de Fora des ONG humanitaires et des développements de la RDC, Konafo dans sigle, indique que les besoins concernent notamment la protection des civils, l'accès aux abris, aux soins médicaux, à la nourriture ainsi qu'aux besoins essentiels comme l'eau et un environnement assaini. Il rappelle que les personnels et organisations humanitaires doivent être protégés afin de travailler en toute sécurité au lieu de devenir des cibles pour les hommes armés. Le fait de les prendre pour cible prive de nombreuses populations vulnérables d'accès à l'assistance, entraîne la perte en vie humaine et la destruction des biens destinés aux nécessiteux. Le docteur de Joseph Kakisingi indique que le respect du caractère humanitaire des interventions doit être garanti par toutes les parties. Concernant la présence de fosses humanitaires signalées dans certaines zones, le docteur de Joseph Kakisingi invite la population à la vigilance et à signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes. Il encourage également les véritables acteurs humanitaires à respecter les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance afin de préserver la confiance des communautés bénéficiaires.
La chose à faire, en fait, c'est faire très attention. Parce que pour reconnaître les vrais humanitaires, il faut regarder leur façon d'agir. Quand vous avez une organisation qui vient vers vous et qui dit « nous voulons vous mettre sur des listes de bénéficiaires, mais vous devez nous payer d'abord, c'est déjà d'office faux. » Ensuite, il faut vérifier. Aujourd'hui, vous pouvez appeler des réseaux qui sont connus officiellement, comme par exemple pour le Sud Kivu, vous avez le réseau Stekonat. Et donc, si vous avez des doutes, vous pouvez appeler le Stekonat pour le Sud Kivu, vous pouvez appeler les Fonad pour le Nord Kivu, vous pouvez appeler les Fonaï pour l'Ituri, vous pouvez appeler les Ronan pour l'ancien Katanga, et vous pouvez appeler les RON pour Kinshasa et le Congo de l'Ouest. Vous pouvez vérifier sur les listes de Konafod. Konafod a un site internet, konafod.org, où il y a la cartographie des ONG membres de Konafod. Ça vous permet d'avoir une idée comment il est une organisation reconnue par Konafod et donc l'est sur la liste reconnue par le système humanitaire.
Malgré ces nombreux défis, les organisations humanitaires poursuivent leurs interventions dans la mesure de leurs moyens afin de répondre aux besoins des populations affectées par les conflits et les différentes crises.
Et les femmes du Sud Kivu sont confrontées à plusieurs difficultés qui freinent leur développement pendant cette période. Parmi ces difficultés figure l'insécurité qui entraîne des déplacements, la non-participation des femmes dans des sections de prison, de décision et la fragilisation de l'économie des femmes accentuée par le fait qu'elles ne peuvent plus exercer leurs activités comme auparavant. Ceci ressort d'une session d'actualisation et validation des revendications prioritaires des femmes et jeunes organisée lundi 17 août par la dynamique des jeunes pour la paix, la réconciliation et le développement. Selon Florence Mugisa, présidente de cette structure, l'objectif de cette session est d'ajouter les problèmes prioritaires dans le plaidoyer qui sera envoyé au gouvernement central, mais aussi aux différents partenaires qui peuvent accompagner les femmes du Kivu pendant cette période. Pour elle, plus les jours avancent, plus les besoins des femmes évoluent, d'où l'importance d'actualiser de temps en temps et ainsi se rassurer que ce sont les vrais besoins des femmes qui sont portés. Au cours de cette séance, les femmes vont évaluer leur plaidoyer déjà élaboré pour connaître les problèmes à garder au premier plan et ceux qui peuvent attendre. Florence Mugisa.
Actuellement, les femmes sont confrontées à plusieurs défis. On va parler notamment de l'insécurité qui touche directement les femmes parce qu'elles ne sont pas libres de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Ce qu'il faut, selon nous, c'est pouvoir comprendre dans quelle mesure nous pouvons orienter les différentes actions ou les différentes plaidoyers pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va aider ces femmes-là qui se battent pour les familles, qui se battent pour des communautés, mais dont leurs contributions ne sont pas visibles ou ne sont pas bien comprises par d'autres. Aujourd'hui, on a fait appel aux jeunes femmes, on a fait appel aux femmes de la société civile, on a intégré les femmes vivant avec handicap, on a intégré les jeunes femmes qui œuvrent pour les questions de paix, on a intégré les étudiants, parce que c'est vraiment toutes les femmes dans chaque contexte a une revendication qu'elle aimerait qu'elles puissent avoir une solution.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est Radio Maendeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Nous changeons de chapitre à présent. Les activités sont restées paralysées sur l'ensemble de la ville de Baraka et une bonne partie du territoire des Fizi. Les transporteurs, les opérateurs économiques et autres forces vives répondaient ainsi à 3 journées ville mortes pour dénoncer l'arrestation des 6 défenseurs des droits humains à Baraka, parmi lesquels le président urbain de la société civile à Barakam et le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, centre de négoce de Barakam. Pour ce premier jour de mobilisation, des sources locales indiquent que la circulation des motos et véhicules est restée suspendue alors que les boutiques et marchés n'ont pas fonctionné. Malgré la présence impressionnante des éléments de l'ordre, les habitants préféraient rester chez eux en réponse au mot d'ordre des forces vives et de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle dans cette partie du Sud Kivu. Pour rappel, ces trois journées villes mortes vont aller jusqu'au 19 août. Les défenseurs des droits humains arrêtés sont parmi les membres des forces vives qui s'étaient opposés au recouvrement forcé des taxes à travers un bouclage annoncé par la DPMR à Baraka. Ces derniers ont été transférés à Ouvira vendredi dernier, soit un jour après leur arrestation par le commandement militaire basé dans la ville de Baraka. Mais pour l'ancien civil, protester contre une taxe est légitime, surtout lorsqu'il n'y a aucune rédévabilité ou lorsque les services asphyxient déjà les assujettis avec la coupure de la connexion Internet qui entraîne l'arrêt de plusieurs services. Et 89 enfants félins vulnérables venus de la ville de Bukavu et des territoires de Kabare et Walungu ont bénéficié des fournitures scolaires offertes par la fondation Upendo Family. Parmi eux, 68 élèves ont bénéficié d'une bourse d'études dénommée Bourse d'excellence Upendo couvrant toute l'année scolaire 2026-2027. La cérémonie de distribution de ces fournitures a eu lieu dimanche 16 août 2026 au siège secondaire de la fondation située sur avenue Michomero au quartier Nkafu dans la ville de Bukavu. Détail, Omer Moudekereza.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'éducation et lutte contre la délinquance juvénile, mise en œuvre par la fondation Upendo Family. Des cahiers, registres, stylos, crayons, souliers et uniformes ont été notamment remis aux enfants bénéficiaires. Pour Mathieu Biragui, président du conseil d'administration de la fondation Upendo Family, cette initiative vise notamment à permettre aux enfants orphelins vulnérables de poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions. Il appelle également les habitants de Bukavu à se joindre à ses actions en faveur des enfants vulnérables et à contribuer ainsi à la lutte contre la délinquance juvénile. Mathieu Biragui en parle.
L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre département d'appui à l'éducation et de la lutte contre la délinquance juvénile. Et c'est ainsi que nous avons distribué des fournitures scolaires aux enfants orphelins et vulnérables. Et à part ça, nous avons octroyé des bourses à 68 élèves qui vont bénéficier de notre appui, c'est-à-dire ces enfants vont étudier à notre charge durant toute l'année scolaire 2026-2027.
De leur côté, les bénéficiaires remercient la Fondation pour cet appui, particulièrement dans un contexte marqué par des difficultés financières ainsi que les crises sécuritaires et politiques. Parmi les bénéficiaires figure Sarah Zeziru Gindabanga, élève en 7e année à l'Institut Père Antonino Manzuti de Panzi. Orpheline de père, elle s'est dit heureuse de cet appui et considère désormais la Fondation Upendo Family comme une seconde famille. Elle promet de redoubler d'efforts à l'école.
Je suis très émue et très heureuse pour ce que Upendo Family vient de faire pour moi. Je sais que je suis une orpheline du père, mais quand je suis arrivée dans la fondation Upendo Family, je me suis sentie joyeuse, ouverte, je me libère comme je veux. Bon, Upendo Family, c'est ma famille. Je promets de réussir, de toujours bien travailler. Et j'ai encore promis ça l'année passée et je suis sortie avec 76% au TENAFEP.
La fondation Upendo Family indique que ses actions en faveur des enfants orphelins vulnérables sont organisées depuis 2026. Au cours de cette cérémonie, 10 personnes ayant contribué au soutien de ces enfants ont reçu des brevets de reconnaissance. À cette même occasion, le collectif des défenseurs des droits humains de l'Est de la RDC a décerné un brevet de mérite à Mathieu Biragui, président du conseil d'administration de cette fondation, en reconnaissance de ses actions caritatives et de son engagement en faveur des couches vulnérables.
Et organisé par Open Space DRC dans la ville de Bukavu grâce à l'appui de la coopération suisse, le festival Tungane Pamoja a réussi à réunir plusieurs talents dans le domaine de la danse, du slam, de l'éloquence, du dessin et du chant. Venus de trois communes de la ville de Bukavu, des universités, instituts supérieurs et écoles secondaires de la ville de Bukavu, ce festival a été un moment pour valoriser les talents artistiques des jeunes et offrir une plateforme d'expression aux jeunes artistes sur les thématiques de paix. Qu'en est-il, Hélène Boudjeriri?
Il a été également question de promouvoir le message de cohésion sociale auprès d'un large public, encourager l'engagement citoyen des jeunes et promouvoir une image positive de la jeunesse congolaise, s'inscrivant dans le cadre du projet Jeunesse engagée pour la paix, la cohésion sociale et la résilience locale. Ce festival constitue l'une des activités dont le souci est de promouvoir la culture de la paix et favoriser la participation des femmes et des jeunes filles dans les activités culturelles. À travers les dessins, la danse, l'éloquence danse, les chants et les slams, les artistes ont fait passer les messages et la voix des bénéficiaires a été entendue, notamment sur les questions des paix. Les activités culturelles ont toujours été des moments forts pour contribuer à soigner les âmes meurtries par un contexte de crise. Une telle activité ravive et nous permet de nous redonner les goûts de vivre, a déclaré un des artistes ayant presté aux côtés d'une dizaine d'autres qui ont agrémenté l'événement. Au sujet de ceux qui seraient en train de vouloir se servir de tels événements pour discréditer les partenaires comme la coopération suisse, les organisateurs indiquent donc que le festival n'est qu'une activité sur une dizaine d'autres dans le cadre de ces projets et dont les résultats apportent un changement dans le vécu des bénéficiaires. Satisfaits du déroulement depuis la mobilisation jusqu'au jour proprement dit, les festivaliers ont encouragé la coopération suisse pour son accompagnement dans différents secteurs dont celui de la culture, dans un contexte aussi fragile marqué parfois par le découragement et l'abandon d'autres acteurs. Précisons que le festival Tungane Pamoja a permis de couronner 34 artistes qui se sont distingués par leurs œuvres et prestations. Parmi eux figure une personne vivant avec handicap qui est sortie premier dans le domaine du slam, d'où le caractère inclusif de l'activité, se félicitent les organisateurs.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, la Ligue nationale de football publie à nouveau la liste des clubs retenus pour le championnat national Ligue 2 de la LINAFOOT saison sportive 2026-2027. La LINAFOOT le signifie à travers une notification adressée au président de club concerné. Pour le Sud Kivu, il s'agit de l'OC Mungano et de l'OC Bukavuda qui restent dans la zone Est. En revanche, la LINAFOOT confirme dans la zone Ouest la relégation du Darin Club Motema Pembe DCMP. Et dans un autre chapitre, l'école de football de Bukavu se qualifie pour la finale du tournoi de la paix organisé à Goma par l'Académie Brésil. Les U17 de l'Ecofoot Bukavu se sont qualifiés après leur victoire devant Nyiragongo sur le score d'un but à zéro. Cette rencontre s'est disputée lundi 17 août 2026. L'unique but de la partie a été marqué à la 12e minute par Jimmy Rugendabanga. Ecofoot affrontera en finale le mercredi prochain le vainqueur de l'autre match de demi-finale entre Gol et Mwangaza. Les U17 obtiennent cette qualification alors que les U12 et les U15 ont été éliminés précocement dans ce tournoi organisé dans la ville volcanique.
La revue de presse, Radio Maindeleu Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La réduction des barrières de contrôle sur la route nationale numéro 5 et l'appel de MSF à ne pas négliger les autres urgences sanitaires à l'est de la RDC suite à la riposte contre la maladie à virus Ebola font partie des sujets commentés par la presse lundi 17 août 2026. La revue de presse avec Myriam Mufano.
Dans cette revue de presse par kabaréactu.info qui écrit, le mouvement citoyen Machozi Araya salue la réduction du nombre de barrières de contrôle sur la route nationale numéro 5 entre Ouvira et Baraka au sud Kivu. Selon ces structures citoyennes, les barrières seraient passées du 26 à une seule, située à Kalundu, une mesure qui devrait faciliter la circulation et réduire les contraintes imposées aux usagers. Machozi Araya appelle toutefois les autorités provinciales et nationales à veiller à ce que ces barrières ne réapparaissent pas sous d'autres formes, notamment à travers des nouveaux paiements ou pratiques qui pourraient alourdir les conditions de circulation sur ces taxes. La structure invite ainsi les autorités à assurer un suivi régulier de la situation et demande aux voyageurs de signaler tout nouveau cas des barrières ou de paiements irréguliers. Pour Moussa Lirotamou, il est nécessaire de consolider ces acquis afin de garantir une circulation plus libre et plus favorable sur la route nationale numéro 5, conclut kabaréactu.info. De son côté, Jambo RDC écrit, alors que la riposte contre Ebola mobilise d'importants moyens en RDC, Médecins sans frontières MSF appelle à ne pas négliger les autres urgences sanitaires dans l'est du pays. Au nord Kivu et au sud Kivu, les choléras, la rougeole, le paludisme, ainsi que les conséquences des conflits continuent de toucher les populations dans un contexte démarqué par les déplacements et l'accès difficile aux soins. Selon les données citées par MSF, plus de 108 643 cas suspects de rougeole, dont 1394 4 décès ont été enregistrés en RDC entre janvier et le 19 juillet 2026, dont plus de 50 820 cas au Nord Kivu et au Sud Kivu. Pour les choléras, le pays a enregistré plus de 35 464 cas suspects et 1051 décès avec 14 819 cas dans les deux provinces du Kivu. MSF indique avoir pris en charge plus de 12 050 patients atteints des rougeoles et vacciné plus de 283 150 enfants dans ces interventions. L'organisation poursuit également la prise en charge du choléra à Bukavu, Shabunda et Goma, où plus de 2410 malades ont déjà été soignés dans les structures qu'elle soutient. MSF appelle ainsi les autorités, le bailleur et les acteurs humanitaires à maintenir le financement pour toutes les urgences sanitaires, notamment le palliatif, afin que la lutte contre Ebola ne s'efface pas au détriment des autres besoins de santé. Bouclons cette revue de presse par Radio Okapi.net qui indique que le Parlement d'enfants du Nord Kivu appelle le gouvernement congolais à engager rapidement des négociations avec le syndicat d'enseignants afin d'éviter une grève et une perturbation de la prochaine rentrée scolaire à Butembo et dans les territoires des Lubéros. Cette organisation craint une nouvelle paralysie des cours en raison des revendications salariales récurrentes des enseignants. À Butembo et Lubéros, plusieurs rentrées scolaires précédentes sont marquées par des mouvements de grève dès le premier jour des cours. Les enseignants réclament notamment le paiement régulier de leur salaire et l'amélioration de leur prise en charge par l'État. Pour le Parlement d'enfants, ces revendications doivent être examinées avant la reprise des cours afin de préserver la continuité de l'enseignement. Les défenseurs des droits humains de l'enfant, Rigen Bagahe, contacté par ces médias, appellent le ministre de l'Éducation nationale et les autorités provinciales à engager des concertations avec les enseignants pendant la période préparatoire. Il rappelle que les droits à l'éducation doivent être garantis à tous les enfants, notamment aux filles et aux garçons, conclut Radio-Capi.net.
Par ici pour enfin ce radio-journal, Emile Mouindo a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Madeleine. Au revoir.